Le texte que nous allons prendre aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Exode. Il est un petit peu long, mais je crois que ça vaut la peine de le lire en entier pour être bien pénétré du contexte, et du texte d'ailleurs. Et c'est le chapitre 18. Chapitre 18 de l'Exode. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite en pays étranger ». Et l'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna et le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens ?» Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Ce que tu fais n'est pas bien, dit Jéthro à Moïse. Question communication, recherche d'une entrée en matière habile. En voilà un, Jéthro, qui aurait gagné à assister au culte de la semaine dernière pour entendre le message que nous a donné Éric Denimal. Vous avez Vous imaginez ce pauvre Moïse, du matin jusqu'au soir, entendre les plaintes, les récriminations, les doléances des uns et des autres. Quand il en a fini avec une affaire, il se penche un peu et là, il voit toute cette file qui s'étire, qui disparaît peut-être même derrière les dunes de personnes qui attendent pour juger entre eux. Et lui, il se concentre sur sa tâche avec attention, s'investit à fond dans chaque affaire. Et puis ensuite en vient une autre, toute différente. Il passe du mari jaloux à l'enfant voleur de bonbons, à l'employé maltraité, aux querelles de berger, etc., etc. Et voilà qu'un homme qui n'est pas de ce peuple, qui vient d'arriver, qui n'a rien vécu de ce qui s'est passé avant, et en particulier de la traversée de la mer Rouge et de la délivrance de la main de Pharaon, vient lui asséner un bon coup entre les oreilles par cette parole assassine: ce que tu fais n'est pas bien. Son beau-père en plus, hein, ça nous est rappelé de multiples fois, hein, c'est son beau-père, Jéthro, beau-père de Moïse. On parle souvent des relations belle-mère-belle-fille, mais je crois que les relations beau-père-gendre ne sont pas des plus simples non plus. Écoute, beau-papa, tu as certainement de bonnes idées, mais tu ne connais rien de ce peuple. Tu n'étais pas là quand il a traversé la mer Rouge et quand les armées de Pharaon s'y sont noyées. Dieu nous a guidés et nous guide encore aujourd'hui. Alors s'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi finir mon boulot. Au revoir, à ce soir, merci. Mais dans cette culture, on accorde aux personnes plus avancées en âge beaucoup plus de sagesse et d'égard que dans la nôtre, chose que je regrette personnellement, surtout en prenant de l'âge. Et donc, Jéthro, fort de son expérience, ne s'embarrasse pas trop de précautions oratoires et continue sur sa lancée. Tu vas y laisser ta santé, et eux, ils ne seront jamais satisfaits. Quand ils vont voir qu'il faut attendre des jours et des jours avant que leurs petites affaires soient réglées. C'est vrai qu'à notre époque, on a du mal à imaginer une justice aussi lente, hein, on n'est pas habitué à ça. Mais écoute bien mon conseil. Entoure-toi de gens capables d'en diriger d'autres. Et le voilà parti, à suggérer à Moïse comment mettre en place une structure pyramidale des plus classiques qui soient, hein. Moïse, ensuite des chefs de 1000, des chefs de 100, de 50 et de 10. Avec, pour chaque niveau, un certain degré d'autonomie en rapport avec la nature des affaires traitées. Mais beau papa, tous les peuples qui nous entourent pratiquent de la sorte. Ce n'est pas une invention, c'est tout à fait banal ce que tu viens de nous expliquer là. C'est ainsi que Pharaon dirigeait l'Égypte. Et même notre ancêtre, Joseph, notre ancêtre qui a dirigé le pays d'Égypte de cette manière-là. Si c'est pour ça, beau papa, que tu viens m'interrompre dans mon travail, non, vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a de lumineux dans ce que tu es en train de me dire. Il faut reconnaître que la suggestion que j'ai trop faite à Moïse n'a rien de bien innovante. Pour faire face à l'ampleur de la tâche, elle reprend la bonne vieille recette du fractionnement, de la technique de la répartition pyramidale. Quoi de plus banal? Mais à défaut d'être inédite et novatrice, il se trouve qu'elle est quand même pleine de bon sens. Et voilà un bel exemple d'utilisation dans le peuple de Dieu, de technique du monde. Et peut-être est-ce là aussi ce qui pourrait précisément gêner quelques-uns. Si nous qui n'avons qu'un guide, Dieu lui-même, nous mettons à agir comme ceux qui n'ont que des hommes à leur tête, en quoi serons-nous différents? Comment entendrons-nous la voix de Dieu? Comment saurons-nous même qu'il s'agit de la voix de Dieu au milieu du brouhaha des expressions de chacun? Nous avons Moïse à qui Dieu parle. Et ensuite, il nous explique ses directives. Oui, mais, explique Jéthro, Moïse ne pourra pas tout traiter. Il ne pourra pas se tenir en prière avec Dieu longuement pour écouter sa voix et tout à la fois régler vos petites affaires, vos petits différends, administrer les tâches de chacun et toute la multitude de choses qui se présentent quotidiennement, les unes derrière les autres, dans n'importe quelle assemblée. Moïse n'y suffira pas à lui seul. Ce n'est pas une révélation fracassante, c'est du simple bon sens. Tu ne pourras pas y suffire à toi seul. C'est ça que Moïse dit, que j'ai trop dit à Moïse. Et puis, il y a aussi ce qu'il ne dit pas, mais que Moïse a certainement perçu. Si je n'y suffirais pas, ça va me décourager. Quelqu'un disait, je suis bien moins fatigué par le travail que je n'ai pas fait, que je n'ai pas pu faire, que par le travail que j'ai fait. Et peut-être, je vous l'accorde, c'est un peu moins vrai sans doute dans les métiers manuels, quoique le paysan qui a été dérangé par une pluie violente qui l'a chassé de son champ alors qu'il était en train de labourer, va se coucher avec un poids sur les épaules qu'il n'aurait pas eu s'il avait pu terminer son travail. Le plaisir du travail accompli est un véritable baume réparateur du corps et de l'esprit. Si je n'y suffis pas, je vais me décourager. Dès le réveil, je serai découragé de voir ce peuple innombrable qui s'attend à moi et dont je ne pourrai satisfaire qu'une infime partie. Je vais me décourager car je n'aurai pas la satisfaction du travail accompli. Je vais me décourager parce que je serai sans cesse tiraillé entre les tâches, parce que je devrai décider sciemment de mettre à côté des choses que j'estime importantes, mais qui devront attendre encore et encore. Si je n'y suffis pas, eux vont se décourager. Ça fait des jours et des jours qu'on attend de le voir et pour lui exposer le problème. Et qu'est-ce qu'on fait là, en attendant? Je vais te le régler moi-même, le problème. Tu vas voir, ça ne va pas tarder. Eux vont se décourager parce que ce Moïse, qui a pris la tête de notre assemblée, qui était des nôtres et si proche de nous, s'est enfermé dans sa tour d'ivoire et qu'il est devenu inaccessible, trop occupé qu'il était pour lever la tête de ses dossiers. Et il y a autre chose que Jéthro ne dit pas, mais que Moïse perçoit peut-être également. Est-ce bien de diriger seul? Est-ce bien de se priver de conseiller? Est-ce bien de ne pas avoir d'autre paire d'oreilles, d'autre paire d'yeux, de narines, d'hémisphères cérébraux, d'oreillettes et de ventricules qui, comme vous le savez, sont des organes essentiels du cœur pour appréhender les choses sous tous leurs aspects? Est-ce bien de se priver de doigts, de mains, de jambes, de pieds, d'orteils et même de tripes? Tout est utile dans le corps humain, tout est utile dans le corps de Christ, comme nous l'avons souvent lu. Non, il n'est pas bien pour Moïse de se priver de quiconque. Il n'est pas bien non plus de priver le peuple des capacités de quiconque. Il n'est pas bien de concentrer toutes les responsabilités sur un petit nombre et a fortiori sur une seule personne. Ça va beaucoup plus loin que la seule répartition mécanique des tâches. L'Assemblée est une collectivité que toi, Moïse, tu dois doter des moyens de se prendre en charge. Alors, Moïse, je suis désolé, mais pour toutes ces raisons, ce que tu fais n'est pas bien. Et verset 24, il nous est dit, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Vous imaginez, Moïse, oui, je parle de Moïse, celui qui a accompagné, qui a fait sortir le peuple d'Égypte et qui lui a fait traverser la mer Rouge, à qui Dieu avait parlé directement au moment de la sortie d'Égypte. D'après le chapitre 19, le premier verset du chapitre 19, on est à moins de 3 mois de cet événement mémorable. Et tous sont encore forcément sous le coup de cet événement. Jéthro lui-même avait assisté au moment décisif de la vie de Moïse. Il l'avait recueilli quand Moïse avait fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. C'était son troupeau que Moïse gardait quand il a reçu l'appel de Dieu près du buisson ardent. Et quant à la suite de cela, Moïse lui a exprimé son désir de retourner voir son peuple, de rejoindre son peuple en Égypte. Jéthro, qui perdait à la fois la compagnie de sa fille et de ses petits-fils, et en même temps son gendre et son berger, lui a simplement dit, va en paix. Un peu comme pour dire, si c'est à cela que Dieu t'appelle, vas-y. Sans plus discuter, alors que Moïse n'était encore rien sur le plan social. Mais là maintenant, alors que Moïse est devenu quelqu'un, quelqu'un à qui on se réfère, quelqu'un qu'on vient voir, quelqu'un qui s'assoit et devant lequel on s'assoit pour entendre les sentences, celui à qui Dieu parle, Jéthro, lui, contemple la scène d'un œil un peu extérieur et apparemment assez dubitatif. Tu peux m'expliquer ce qui se passe là ? Tu fais quoi là exactement ? Et tous ces gens là qui sont assis devant toi, du matin jusqu'au soir, ils attendent quoi ? Mais Jéthro a bien compris. Et la réponse que lui donne Moïse ne lui apporte rien de plus. Jéthro est devenu un conseiller. Jéthro est devenu un diacre alors qu'on ne lui a rien demandé. Il apporte son conseil de bon sens, en toute sincérité, en toute simplicité, sans se laisser impressionner par l'aura de Moïse. N'est-ce pas cela qu'on attend d'un conseiller ? Des conseils de bon sens ? Un regard que je n'ose qualifier d'extérieur parce que l'expérience montre qu'il est difficile de conserver un regard extérieur dès lors qu'on s'implique à l'intérieur. Et puis, parmi les personnes qui cultivent de trop ce regard, ce côté regard extérieur, elles se montrent aussi souvent un peu hautaines et un peu enclin à mettre la main à la pâte. Un dicton dit « Les conseillers ne sont pas les payeurs » et il y a une certaine sagesse là-dedans. Ce n'est pas tout à fait ce type de conseiller qui peut vraiment être recherché. Mais venir donner son conseil de bon sens, venir donner son conseil de compétence, venir donner son conseil de sensibilité, venir donner son conseil d'expérience, de vécu, venir donner son conseil d'intérêt pour certains sujets, venir donner son conseil de membre d'association, de collectivité. L'Assemblée, nous l'avons dit, est une collectivité. L'Assemblée sera ce que chacun de nous en fera et y fera. L'Assemblée, c'est plus que moi, c'est malgré tout un peu de moi et c'est aussi un peu moi. Je vais maintenant arrêter de tourner autour du pot. Vous savez, ça fait des mois que nous en parlons. Nous voulons renforcer le conseil. Aujourd'hui même, un article va apparaître sur ce sujet dans le bulletin. Et le message que je vous donne aujourd'hui est le premier d'une série que nous voulons consacrer au sujet de la question des responsables d'Église. Et précisément parce que nous voulons appliquer à nous-mêmes ce sujet-là, il sera abordé par plusieurs prédicateurs sur la base de plusieurs textes, afin de ne pas nous priver de la richesse de notre diversité. Pour notre Église, un conseil de 5 personnes, ça n'est pas bien. Nous n'y suffirons pas. Nous nous y épuiserons et nous serons découragés. Vous-même en serez découragés. Pour notre Église, nous voulons rassembler un conseil de 10 personnes. Idéalement, 7 diacres et 3 anciens. Pour notre Église, nous voulons que le conseil, les responsabilités, les termes mêmes de conseil soient démystifiés. Et s'il faut donner un autre nom pour briser les appréhensions, donnons-lui un autre nom. Appelons-le buffet à volonté, si ça peut vous mettre en appétit. Délices multifruits. Mais pas galette des rois, pas duchesse, pas Saint-Honoré. Mon premier patron disait ceci, « Il y a plus dans la tête d'un seul qui sait que dans celle de 3 qui cherchent. Apporter un savoir, une compétence, une sensibilité, une expérience, ça peut décoincer des situations bloquées. Tel problème peut sembler compliqué et embrouillé pour plusieurs, alors que parfois la vie éclairée d'un seul s'impose à tous comme une évidence. » J'ai gardé dans ma vie professionnelle le souvenir d'un problème que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années. Nous avions un problème de production autour d'un produit que nous produisions en sous-traitance et pour lequel nous perdions de l'argent chaque fois que nous en fabriquions un. On commençait à se demander si ça valait vraiment la peine de continuer à le fabriquer. La grosse vanne du moment, d'ailleurs, c'était de compter, d'essayer d'estimer la valeur du billet dans lequel on l'emballait. Et comme il s'agissait d'une entreprise à vocation sociale pour des travailleurs handicapés, on ne voulait pas lâcher le morceau parce que c'était une épée de Damoclès sur plusieurs emplois, des emplois présents et futurs, si les relations avec ce client pouvaient aller plus loin que ce simple produit. Mais nous étions sérieusement rattrapés par le diktat des contraintes économiques. Et nous nous sommes réunis plusieurs fois pour chercher comment faire. Et en tant que responsable du bureau d'études, je voyais le problème sous un angle technique. Le responsable de production, il portait un autre regard, celui de la qualité, un regard différent encore, et idem pour le responsable commercial. Mais dans notre petit comité, nous avions pris des habitudes, et des habitudes de travail qui jusque-là avaient bien fonctionné. Mais là, la marche était beaucoup plus haute. Et la direction générale, s'impatientant quelque peu, a convoqué une énième réunion de travail, mais a invité cette fois des personnes extérieures à l'entreprise, et parmi elles, des retraités de nos clients traditionnels qui avaient longtemps travaillé dans le domaine. Et nous avons commencé notre réunion en expliquant les données du problème et ce que nous avions fait jusque-là pour tenter de le résoudre. Et assez naturellement, au terme de cette explication, nous nous sommes réengagés dans la voie dans laquelle nous étions partis, celle que nous poursuivions depuis des mois, à décortiquer toutes les phases de la fabrication du produit. Toujours plus loin, toujours plus en avant, dans ce tunnel noir et sombre, dont on ne voyait pas la fin. Et puis, il y a eu ce retraité qui nous a fait, en quelque sorte, un coup de Jethro. Vous faites quoi exactement ? Tout occupé que nous étions au fond de ce tunnel à gratter la roche avec nos ongles, cette voix qui est venue derrière nous était un peu dérangeante. Mais comme Moïse, nous étions polis et respectueux et nous avons pris le temps d'expliquer à cet homme en quoi nous étions si occupés. Mais voilà notre homme qui nous explique comment il faisait dans son entreprise du temps où il y exerçait. Il manquait plus que ça. Voilà papy qui vient nous parler du bon vieux temps. Mais enfin, on l'écoute malgré tout. Comme je l'ai dit, on est poli. Et puis, il nous explique que, eux, notamment, dans son entreprise, ils faisaient exactement le contraire. Nous étions là depuis des mois à gratter les rochers avec nos doigts et nos ongles au fond du tunnel. Et voilà ce petit homme qui vient commencer à nous expliquer que la sortie, c'est peut-être par là. Et là, quand nous nous sommes retournés, évidemment, tout s'est éclairé. Le chemin était tracé. Chacun aurait pu retourner à son domaine, qui a sa production, qui a sa qualité, qui a sa technique. Et nous avons pu mettre en place une belle réalisation qui s'est avérée étonnamment performante, et pas seulement pour ce produit, mais pour pas mal d'autres. Une seule personne, un seul avis, a changé le cours des choses. Qu'avait-il de plus que nous, ce brave homme ? Rien, rien, si ce n'est d'avoir été déjà confronté au problème. Qu'a-t-il fait de particulier ? Rien. Si ce n'est de partager avec nous son expérience. Il était là, au bon moment, juste pour nous dire ce que ceci lui inspirait à lui, juste pour nous indiquer la sortie. Les hasards du planning et les vacances aussi, peut-être un peu, font que je suis de présidence du culte aujourd'hui également. Alors vous me permettrez maintenant de reprendre cette casquette pour vous lire le texte qu'Éric a composé dans le bulletin qui sort aujourd'hui même, sur l'élargissement du Conseil, et tout en le lisant, je le parsèmerai de quelques commentaires. Voici donc. En septembre, nous demandions à tous de prier et de réfléchir à qui ajouter dans le Conseil. Le Conseil avance dans ses réflexions. Et vous ? Le Conseil souhaite se renforcer fortement et passer d'un Conseil d'actuellement 5 personnes à au moins 10 personnes, 3 anciens et 7 diacres. En effet, les chantiers sont nombreux. Premier chantier, doter l'Église d'une structure efficace et évolutive. C'est la proposition de Jethro à Moïse, n'est-ce pas ? Même si ce n'est pas exactement ce modèle-là qu'on veut reproduire, il s'agit bien, comme dans notre texte, de structurer l'Assemblée. Deuxième chantier, susciter un engagement juste chez chacun. que l'Assemblée prenne part à sa propre administration, qu'elle ne s'en remette pas à un homme ou à un petit nombre, comme l'a expliqué Jéthro à Moïse. Troisième chantier, relancer le projet immobilier. Évidemment, le parallèle saisissant, trouver une terre pour le peuple de Dieu. Autre chantier, poursuivre le travail au sud. Et ça, je vous relirai le verset 1. Jéthro apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Et j'ai raccourci un peu. Jéthro, sacrificateur de Madian. Il se trouve que Madian est au sud par rapport à Israël. Donc les peuples extérieurs doivent entendre parler de tout ce que Dieu fait pour son peuple. Autre chantier, intégrer notre association d'entraide dans le réseau Abège. Voir les lois sociales et toutes les lois que Moïse a pu transmettre de Dieu à son peuple, parce que, et Jéthro le décrit aussi dans son texte, parce que Jéthro, Moïse a été rendu disponible du moment où le peuple a commencé à prendre part à sa propre administration et a permis ainsi à Moïse d'être disponible pour le travail auquel Dieu l'appelait. Dernier chantier qui est nommé, soutenir l'arrivée du nouveau pasteur. Comme Moïse, notre pasteur a pris la tête de notre assemblée depuis moins de 3 mois. Et bien d'autres tâches encore que Dieu nous confiera. Vous connaissez les besoins en nombre de personnes. Vous avez une idée des chantiers qui sont devant nous. Posez-vous la question. Qui Dieu a-t-il prévu pour cela? Quel Jéthro? Quel retraité? Mais retraité, pas dans le sens de... Pourquoi pas, hein? Mais pas seulement. Pas dans le sens, mais peut-être dans le sens de quelqu'un qui s'est un peu retiré, qui a pris de la distance et que maintenant Dieu appelle à reprendre du service. Ou au contraire, quel actif, quel père, quelle mère, quel jeune, quelle personne seule. Que sais-je encore pour enrichir l'orientation de l'Église avec ses compétences, ses sensibilités, les expériences qui font votre quotidien et dont l'Église manque peut-être. La question n'est pas de savoir qui est digne de rentrer au conseil. La question est de discerner qui Dieu a prévu pour aider. Car je ne peux croire que Dieu n'a pas équipé notre Église pour relever les défis qu'il a placés devant nous. Alors à qui? À qui le tour? Car s'il est certain que tous n'ont pas les dons nécessaires pour ce service, je crois que ceux qui les ont sont plus nombreux que ceux qu'on ne le croit. Afin de nourrir votre réflexion, nous vous encourageons à participer à la formation qui aura lieu le 23 novembre prochain à Lyon. Le théologien Alain Isus y parlera du rôle du conseiller d'Église, sans doute de manière beaucoup plus détaillée et exhaustive que j'ai pu le faire aujourd'hui. Nos prédicateurs également suivront toute une série de prédications, j'en ai parlé tout à l'heure, sur le sujet du choix des membres du conseil. C'est ce que nous avons commencé à traiter aujourd'hui, saisissez donc ces opportunités pour réfléchir. Et puis n'hésitez pas à revenir vers le conseil ou le buffet à volonté, avec vos idées de personnes, de plats, à ajouter au conseil. Au buffet, en discutant soit avec les membres du conseil actuel, qui n'est pour l'instant qu'un maigre sandwich au jambon beurre, sans beurre, soit à travers la boîte à idées qui peut être un nouveau menu. Et dans toutes ces choses, laissons-nous conduire par notre Père en restant devant lui dans la prière. Amen. Prions.